Heure temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Sporama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde. C'est dans un instant avec Jacques Aristide, Jean-Roger Billon à ce microphone. Je vous propose tout d'abord un bulletin d'information. On va à Kano au Nigeria, qui a été le théâtre de deux attentats aujourd'hui. Une kamikaze s'est fait sauter dans une file d'attente composée de femmes venues acheter du carburant. Une seconde explosion s'est produite dans un autre quartier de la ville, nous dit Adamu Abubakar Gwazo, notre correspondant sur place.
Elle a suivi le queue pour acheter du carburant avec les explosifs sur elle. Elle s'est exposée, donc il y a eu 3 morts et puis 8 blessés selon la police. Aussi dans un quartier qui s'appelle Zouro, il y a eu aussi un bombe qui s'est exposé là-bas. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de détails des morts. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de revendications. Mais le gouverneur de Kano, il a demandé à la population d'être très prudent. Et puis quand il voit le visage qu'ils ne connaissent pas, il n'a qu'à essayer d'avertir la police. Cette fois-ci, on peut dire que beaucoup Boko Haram a changé de stratégie. Même hier aussi, il y avait eu une femme qui a porté une exposition sur elle à l'université de l'État de Kano. Aujourd'hui aussi, la même chose. Donc maintenant, Boko Haram a changé de stratégie. Ils utilisent maintenant des femmes pour des expulsions. La population maintenant à Kano a peur. Avant, les gens disaient que la paix de Boko Haram n'est plus à Kano. Mais ces derniers jours, l'attaque est revenue. Ça fait peur les gens.
Adamu Abubakar Gwazo, correspondant de la Voix de l'Amérique à Kano. Toujours pas de nouvelles de personnes enlevées à Kolo Fota, dans l'extrême nord du Cameroun. L'épouse du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali a été prise en otage, ainsi qu'un chef traditionnel. Même pour l'heure, le bilan de l'attaque reste indéterminé. Seule certitude pour le gouvernement, ce dernier carnage porte la marque de Boko Haram. On écoute Issa Chiroma, le ministre camerounais de la Communication.
L'enquête suit son cours normal. Sachez qu'il y a eu des prises d'otages, que ces barbares ont exécuté des gens dans le domicile, en particulier du vice-premier ministre, dont l'épouse a été enlevée, et un peu partout également au niveau des chefs traditionnels. Je n'ai pas des éléments précis quant au nombre de morts, de blessés et du nombre de personnes enlevées.
Est-ce qu'on a une petite idée de là où pourraient se trouver les personnes qui ont été enlevées?
Malheureusement, nous n'en avons pas. C'est un conflit interne au Nigeria. Je peux dire avec une forte probabilité qu'ils sont basés au Nigeria, mais dans quel endroit, je ne saurais vous dire. De temps en temps, ces gens-là débordent. Le chef de l'État a déclaré une guerre à cette secte, et puis nous avons nos forces de défense et de sécurité qui sont sur place. Tout porte la signature de Boko Haram. Une colonne de plus de 200 personnes lourdement armées et masquées qui viennent assaillir. Tout ça, c'est la signature de Boko Haram, madame.
Monsieur le ministre de la Communication du Cameroun, interrogé par Morgane Guiriek. En Libye, la réserve de carburant près de Tripoli est en feu. La conséquence des combats meurtriers dans la zone de l'aéroport, le porte-parole de la Compagnie nationale libyenne de pétrole indiquait lundi à l'AFP que l'incendie était désormais hors de contrôle en raison des combats à proximité et a appelé la communauté internationale à l'aide. Le Libéria a fermé la plupart de ses frontières pour tenter de contenir l'épidémie du virus Ebola. La présidente du Libéria, Hélène Johnson, Sirleaf a annoncé dimanche soir que l'aéroport international de Monrovia, un aéroport de province et 3 principaux postes frontaliers resteraient ouverts avec des mesures spéciales pour empêcher la propagation du virus.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et au moins 15 civils, dont 6 enfants, ont péri dans des bombardements nocturnes aériens de l'armée syrienne et des tirs d'obus des rebelles à Alep, la métropole du nord du pays ravagée par plus de 3 ans de guerre, a rapporté une ONG ce lundi. Des millions de musulmans à travers le monde célèbrent aujourd'hui l'Eid el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, mais dans le sud des Philippines, une cinquantaine de militants islamistes d'Abu Sayyaf ont ouvert le feu sur des véhicules transportant des fidèles à une fête de village, tuant au moins 21 personnes et blessant 11 autres. À Gaza, des centaines de gens se sont rassemblés tôt ce matin pour les prier à la mosquée, mais plus tôt que d'aller fêter après la fin du Ramadan, certains d'entre eux sont rentrés à la maison pour rendre hommage à la mémoire de plus de 1000 personnes tuées au cours des 3 dernières semaines. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, ne partez pas dans un instant. Sporama, et c'est avec Jacques Aristide.
Wow. Mille merci Jean-Roger Billon. Il est 19h, temps universel, 5 minutes évidemment passées. Nous sommes le lundi 28 juillet 2014 et c'est parti pour Sporama. Jacques Aristide aux commandes en compagnie de vos chroniqueurs sportifs préférés. Un coup d'œil d'abord, un coup d'œil rapide sur le contenu. En football, la Ligue africaine des champions a repris ses droits ce week-end.
Retour en force en effet de la Ligue des champions de la CAF à travers l'Afrique ce week-end. Dans le groupe A, le TP Mazembe de la République démocratique du Congo a tenu tête aux Égyptiens du Zamalek.
Résultats, analyses et commentaires à venir. Autre grosse compétition, la Coupe de la Confédération. La bataille s'annonce âpre en vue des demi-finales.
Grâce à cette victoire, Coton Sport conforte sa première place dans le groupe avec 10 points. Pour son entraîneur Didier Gomez da Rosa, la formation a donc fait un grand pas vers la qualification en demi-finale.
Et en fin de magazine, la bravoure des joueuses de basket à Gao au Mali.
Dans la crise que j'ai quitté ici pour aller à Bamako, quand je partais là-bas, je n'ai pas entraîné là-bas. Je le sais, je ne pars pas même à l'école, je ne pars pas.
Reportage à ne pas manquer tout à l'heure. Nous ouvrons avec du football, bien évidemment. Eh bien, la Ligue africaine des champions a repris ses droits ce week-end après avoir été interrompue le temps de la Coupe du Monde au Brésil. À chaque poule, son choc, Zamalek, TP Mazembe dans le groupe A et CS Safien, ES Tunis, groupe B, étaient au menu. Le résumé des rencontres comptant pour la quatrième journée avec Jean-Roger Billon.
Retour en force en effet de la Ligue des champions de la CAF à travers l'Afrique ce week-end. Dans le groupe A, le TP Mazembe de la République démocratique du Congo, qui se préparait depuis deux bonnes semaines en Tunisie, a tenu tête dimanche à Alexandrie aux Égyptiens du Zamalek. Pourtant, auréolés de leur victoire en Coupe d'Égypte, la 13e de l'histoire du club, le Zamalek et le TP Mazembe ont donc fait match nul, 0-0. Les corbeaux de la RDC restent en tête du groupe A à égalité de points avec leurs compatriotes de l'AS Vita Club. Quant aux chevaliers blancs du Zamalek, ils sont toujours 4e et dernier du groupe avec 4 points, alors que leur emblématique coach Mido s'était donné pour objectif de vaincre afin de revenir à la hauteur de leurs adversaires d'hier soir. Revenons à l'AS Vita pour parler de l'autre rencontre dans le groupe A. Le club de la RDC a accueilli et battu les Soudanais d'El Hilal 2-1. Hier à Kinshasa, le club de la RDC occupe la 2e place du classement avec 7 points, tandis que El Hilal reste à la 3e place avec 4 points. Passons au groupe B, les hostilités étaient ouvertes dès vendredi soir sur la pelouse du stade Chedli Zouiten de Tunis. L'entente de Sétif de Tunisie qui a perdu plusieurs éléments, Ziti, Ferraï, Nadji, Ben Abderrahmane, Karaoui ou Gourmi, a accueilli un Ali Benghazi de Libye décidé à ne pas se laisser distancer, mais qui a fini par s'incliner par 2-0. Mais le grand match de cette journée dans cette poule a été le choc 100% tunisien entre le club sportif sfaxien et l'Espérance sportive de Tunis au régime de matchs amicaux depuis un mois. Le CS sfaxien a battu l'Espérance 1-0 samedi à Sfax. Avec ce résultat, Sfax est désormais à la 2e place du groupe B, tandis que l'Espérance sportive de Tunis occupe la 4e et dernière place.
Et maintenant, commentaires et analyses de vos chroniqueurs préférés en direct avec nous. Jules Valentin-Goué de Libreville au Gabon, Salif Kabore de Ouagadougou au Burkina Faso et Élisée Mpati de Boïkon au Bénin. Alors, bonsoir messieurs. D'abord, quelle lecture faites-vous de ces rencontres durant le week-end? Je commence par vous, Jules.
Oui, Jules, comment tu vas?
Oui, ça va très bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir très rapidement de toutes ces rencontres pendant le week-end?
Mais il faut dire que nous sommes déjà dans la phase décisive de ce championnat, en fait, parce que c'est un championnat, et que de plus en plus, les équipes qui ont une chance de se qualifier et se démarquent et donc marquent leur territoire. Donc je crois que à la prochaine journée, on y verra beaucoup plus clair.
Très bien. Alors donc, Salif. Alors, Élisée, vous êtes avec nous, n'est-ce pas?
Oui, Jacques Aristide, je suis en direct.
Oui, voilà. Alors, Élisée, donc même question. En fait, je ne sais pas qui c'est qui nous parlait tout à l'heure là. Et alors, on m'a pas dit. Alors, c'était Jules qui me parlait tout à l'heure.
Oui, bien sûr, c'était Jules.
Ok, Jules, bon, maintenant je passe à Élisée. Alors, Élisée, très rapidement, quelle analyse faites-vous de ces rencontres du week-end?
Oui, comme l'a dit déjà Jules, hein, Valentin Ngoué, il faut dire que c'est une phase décisive, hein, puisque déjà là, il faut faire des réglages, puisque il ne reste que deux matchs hein, pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Et nous avons vu le tout-puissant Mazembe dans son groupe qui allait chercher un résultat nul très réconfortant, hein, puisque c'est un match très important qu'il ne faut pas perdre, puisque déjà la veille, hein, ou bien le même jour, l'AS Club de Kinshasa qui a eu raison de Al Hilal, eh bien, c'est déjà un très bon résultat pour les deux clubs du Congo démocratique. Et maintenant, concernant l'Espérance de Tunis, c'est un résultat décevant, puisque après le limogeage de son entraîneur, bien, Sébastien de Sabre avait l'obligation de faire un bon résultat pour pouvoir relancer les Tunisiens sur la bonne route. Mais malheureusement, ce sont les vainqueurs de la Coupe de Confédération de la saison dernière qui ont eu le dessus. Ils se sont imposés. Et bien, l'Espérance pourra mieux se concentrer maintenant sur la Coupe de la Confédération, bien, puisque là, ses chances sont désormais réduites. Hein, et l'Espérance aura fort à faire pour se qualifier. Mais c'était une très belle confrontation ce week-end qu'on a vu sur le continent.
Oui, et nous le savons, la prochaine journée, ce sera pendant le week-end du 9 août. Donc, le TP Mazembe croisera le fer avec Al Hilal, le Zamalek contre AS Vita Club. Et dans le groupe B, ES Sétif contre Espérance Sportive de Tunis et Al Ahly Benghazi versus Club Sportif Xafien. Alors, donc, à quoi faut-il s'attendre pour ces prochains matchs? Très rapidement, Jules.
Oui, mais il faut s'attendre à ce qu'on prenne la calculette. Et, vous savez, les matchs à l'extérieur ont cet avantage que l'équipe qui arrive n'a pas la pression du public. Et lors des derniers matchs, cela va considérablement jouer. Et généralement, l'équipe qui va marquer la première va pratiquement prendre les commandes de la rencontre et peut-être dominer le scénario du match.
Alors, du football encore avec l'autre grosse compétition qui a également eu lieu au cours du week-end. Il s'agit de la Coupe de la Confédération. Les résultats complets de la quatrième journée avec Michel Joseph. Et nous attendons donc ce compte-rendu de la... Oui, voilà, nous donc les résultats avec Michel Joseph.
Dans le groupe A, les Camerounais de Coton Sport de Garoua se sont imposés face aux Ivoiriens de la 5 Mimosa par 2-1 samedi pour le compte de cette quatrième journée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Grâce à cette victoire, Coton Sport conforte sa première place dans le groupe avec 10 points. Pour son entraîneur Didier Gomez d'Arosa, la formation a donc fait un grand pas vers la qualification en demi-finale, même si elle n'est pas encore mathématiquement qualifiée pour les demi-finales. Le club camerounais n'a plus besoin que d'un point pour y parvenir. La prudence est toutefois de mise, car ses deux prochains adversaires, l'AS Real et l'AC Léopard, tenteront le tout pour se hisser au classement. Justement, les Congolais de l'AC Léopard de Dolisie se sont inclinés sur leur terrain dimanche face à l'AS Real Bamako 1-2. Malgré cette défaite, l'AC Léopard reste à la deuxième place du groupe A avec 5 points, alors que Bamako, qui compte désormais 4 points, s'approprie la troisième place au détriment de l'AS Mimosa. Abordons le groupe B. Les Égyptiens d'Alaï ont battu les Ivoiriens de Sewe Sport par 1-0 samedi. Conséquence de ce résultat, les Pharaons confortent leur première place dans cette poule avec 8 points et se rapprochent des demi-finales. Pour son premier match continental en Afrique et son troisième match seulement à la tête d'Alaï, Juan Carlos Garrido, le nouvel entraîneur espagnol, s'est dit satisfait. En revanche, pour les Ivoiriens, il n'y a plus de droit à l'erreur. Dernier de groupe B avec 3 points, les Ivoiriens ont désormais l'esprit tourné vers la fin des rencontres de poule, dont la prochaine contre l'Étoile du Sahel. Lors de cette rencontre, le ministre des Sports zambien a tiré à boulet rouge sur l'arbitre. Tshishimba Kambwili était mécontent des décisions de l'Éthiopien Tesema Weyesa, qui a eu recours à une escorte de police pour quitter le terrain.
Avec nous en ligne de Ouagadougou, Salif Kabore. Salif, alors quelle lecture faites-vous de tous ces matchs pendant le week-end, comptant pour la Confédération?
Oui, il faut dire que c'est une tradition qui a été respectée hein, pour les différentes équipes qui se sont engagées. en tout cas dans cette compétition, et qui se sont retrouvés effectivement donc ce week-end pour ces différentes confrontations. Vous voyez par exemple que les Égyptiens, eux, s'en sortent. En tous les cas, le football égyptien est en train en tout cas de se refaire une bonne santé en tout cas sur le chéquier du continent africain. Il y a également, comme on l'a relevé tout à l'heure, les Ivoiriens qui, pour l'instant en tout cas, tentent de revenir, mais très difficilement. C'est une compétition qui est ouverte, une compétition où les facteurs en tout cas sont déterminés, ils sont engagés, et je crois que les résultats acquis en tout cas sur le terrain démontrent qu'il y a des formations qui sont déterminées donc pour aller de l'avant dans cette difficile épreuve. Mais je crois que l'essentiel, c'est qu'on assiste à de très beaux spectacles, et c'est vraiment à l'honneur du football africain.
Alors comment on s'annonce les prochaines rencontres Coton Sport donc, qui croisera le fer avec AC Léopard, ASEC Mimosa donc, contre AS Real, et Étoile du Sahel contre Sewe Sport, Mkana FC versus Al Ahly.
Oui, Jacques, il faut dire que ça va être vraiment du feu. Hein. Ça va être du feu dans la mesure, par exemple, quand on prend tout de suite l'AC Léopard avec l'équipe camerounaise, ça va être le feu. On sait que les Congolais, ils ont l'habitude en tout cas d'évoluer à la haute compétition. Ce sont des joueurs qui sont très bien aguerris. Ils n'ont peur de rien, en tout cas, même en dépassement, ils sont très difficiles à manœuvrer. Vous avez également une équipe camerounaise qui, jusqu'à présent, donc essaye en tout cas de se tirer d'affaire dans ces différentes confrontations. Vous voyez un peu, c'est comme on le dit hein, généralement, une difficile mission pour chacune de ces formations. Et également, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, vous avez donc rappelé les oppositions tout à l'heure. Ça va être très difficile. En tout cas, les équipes se connaissent très bien déjà. Quand on sait aussi que dans certaines formations, ce sont des jeunes talents en tout cas qui sont maintenant en tout cas sur la tribune, qui cherchent en tout cas à se faire, je ne sais pas, j'allais dire, cette bonne santé hein, dans leur club et aussi sur d'autres, dans d'autres équipes qu'ils espèrent en tout cas intégrer. Donc vous voyez que ça va être très difficile en tout cas, et ce sont des équipes déterminées et engagées, et surtout qui ont l'expérience et l'envie de gagner, qui s'en sortiront dans ces différents matchs.
Football encore et toujours, et d'ailleurs on va aller chez vous Salif au Burkina Faso, où l'Étoile filante de Ouagadougou, grâce à sa victoire 1-0 face à l'USO, a remporté le titre de champion du Burkina Faso de football à l'issue de la 30e et dernière journée du championnat disputée dimanche. Les stélistes espèrent maintenant réaliser le doublé en cas de victoire contre le Racing Club de Bobo le 5 août à Bobo Dioulasso pour la finale de la Coupe du Faso. Préparatif du dernier tour éliminatoire de la CAN 2015, en match amical hier à Libreville, le Rwanda a battu le Gabon 1-0. Ce succès permet aux Amamouvi, comprenez guêpe en langue locale, d'aborder en toute confiance leur match retour à domicile le 3 août contre les Diables Rouges du Congo, qui les avaient battus 2-0 le 20 juillet à Pointe-Noire. Le qualifié de ce match va intégrer la phase de poule dont les matchs débutent au début du mois de septembre. Le point avec notre correspondant Fritz Koum.
Les deux équipes qui se retrouvaient après un premier match à Kigali le 12 juillet dernier ont offert au maigre public un spectacle moyen en première période. C'est en seconde période que le Rwanda, plus entreprenant, a marqué l'unique but par le Romain Jacques Ntuyisenge. Analyse du match côté gabonais par Raphaël Nzambanzamba, entraîneur adjoint.
Physiquement, je crois que les autres nous étaient supérieurs. Nous avons quand même pêché sur le plan physique, et puis la créativité en attaque, ça nous a vraiment manqué beaucoup. Aussi bien au milieu de terrain, bien sûr. Je pense personnellement que pour un match amical, un match d'observation, c'est bien de le voir maintenant, plutôt que ce soit fait après, où nous serions surpris par ce qui pourrait arriver.
Pour son collègue du Rwanda, il a déjà en tête le match contre le Congo.
C'est une bonne préparation, c'est une motivation pour les joueurs, parce qu'on a perdu contre le Congo chez eux. Ici, on va jouer chez nous. En tout cas, c'est une belle motivation, et puis on va travailler beaucoup sur certaines choses. On espère qu'on va gagner contre le Congo ce samedi là. Ouais, c'est possible, c'est quand on joue chez nous. En tout cas, les jeunes sont motivés, l'atmosphère là-bas, c'est en tout cas, c'est intéressant.
Pour se qualifier, le Rwanda doit gagner par 3 buts d'écart. Fritz Kum, La Voix de l'Amérique.
Dans l'actualité des transferts, c'est désormais fait. Jordan Ayew quitte l'Olympique de Marseille. L'attaquant ghanéen s'est engagé pour 4 ans en faveur de l'Orient, club qui a déjà accueilli son frère André en prêt de la saison 2008-2009. L'Orient qui par ailleurs pourrait perdre son meilleur joueur de la saison dernière, le Camerounais Vincent Aboubakar. D'après le site Top Africa Sport, le club est attiré par une offre du club néerlandais d'Azé Alkmaar, un chèque de 10 millions d'euros. Et comment ne pas revenir sur le retour de Didier Drogba à Chelsea. Nous l'avons appris aujourd'hui, l'attaquant ivoirien de 36 ans portera cette saison le numéro 15, son numéro lorsqu'il était arrivé chez les Bleus en 2004. À l'instar du basketteur américain LeBron James, qui a décidé de retrouver son numéro 23 du côté de Cleveland, Didier Drogba a opté pour son premier numéro chez les Blues. En effet, selon le site officiel de Chelsea, l'international ivoirien de retour à Londres après 2 ans d'absence va porter cette saison le numéro 15, son premier numéro lors de son arrivée chez les Bleus en 2004. Par la suite, l'ancien Marseillais a toujours arboré le numéro 11. Par conséquent, Mohamed Salah, qui portait le 15 de la saison passée, va passer au 17 puisqu'Eden Hazard a pris le 10, laissé vacant par le départ de Juan Mata à Manchester United. Quelques commentaires rapides à propos de ces gros transferts, Jules Valentin Gouy. Ou peut-être nous allons...
Ils vont nous amener du nouveau l'année prochaine et surtout le retour de Drogba à Chelsea est intéressant dans la mesure où il est encore très utile à l'équipe et il peut pousser l'équipe vers le haut.
Mmh. Alif Kaboré.
Oui, Didier Drogba donc de retour à Chelsea. Je pense tout simplement que c'est une bonne porte de sortie pour lui. Peut-être que c'est certainement une stratégie pour lui d'intégrer très prochainement l'encadrement technique. Quant à Ayew qui va donc à l'Orient, je crois que bon, c'est très bien parce qu'aujourd'hui l'équipe marseillaise n'est plus comme celle qu'on avait l'habitude de voir.
Et Élisée, très rapidement, y a-t-il d'autres noms qu'on est en train d'évoquer en ce moment?
Oui, bien évidemment, hein, puisque vous avez parlé en tantôt, hein, Jacques, de Didier Drogba, c'est une très belle opération, puisque c'est vrai, c'est un grand attaquant, mais n'oublions pas, puisqu'il sera du côté de Chelsea, hein, non seulement en tant que joueur, mais il a un an de contrat, puisque après avoir joué cette saison, eh bien, il va rentrer dans le staff technique de José Mourinho, puisque le Mourinho aime tellement ce joueur, il a encore beaucoup de choses à prouver. Donc, c'est dit que c'est un grand attaquant et il pourra encore prouver qu'il lui reste tout au moins une année, permettre à Chelsea donc de remporter la première ligue anglaise, puisque c'est l'objectif réel du club londonien cette saison.
Messieurs, je vous remercie. Alors, et maintenant, avant de clore Sporama, cap sur Gao, dans le nord du Mali, où l'équipe féminine de basketball tente de reprendre du poil de la bête. Après une longue absence sur le terrain, les joueuses étaient contraintes d'abandonner leur passion durant toute la période que régnaient les groupes extrémistes armés dans le nord malien. À l'époque, les islamistes imposaient la stricte loi de la charia. Quelques 18 mois plus tard, les forces françaises sont parvenues à les expulser. Comme dans le reste du nord Mali, l'équipe féminine de basketball de Gao se remet mais lentement le parcours courageux de ces femmes athlètes avec Camille Gros-Didier.
La nuit tombe sur Gao dans le nord du Mali. Un groupe de jeunes femmes s'entraîne sur un terrain de basket. Depuis que les extrémistes armés ont été chassés de la région, ces filles vêtues de pantalons de jogging brillants et de hauts décolletés sont venues rejoindre les garçons. Ramatou Touré se déplace rapidement à travers la surface fissurée de la cour de basketball. Après 10 mois d'occupation islamiste et 1 an sans pratique, l'étudiante de 19 ans, admise à l'école secondaire, fait son retour en force sur le terrain d'entraînement.
Je vais à l'école, on descend à 17h, 17h30. Je vais courir pour venir ici, déposer mon sac et puis je vais aller commencer à courir. Dès que j'ai fini, je vais monter sur le terrain, je vais faire mes entraînements. Oui, c'est ça. Ouais. Quelque chose que tu aimes, ça ne te fatigue pas, vraiment.
Gao est connu pour ses puissantes joueuses de basketball féminin. Mais Ramatou Touré et ses coéquipières ont été contraintes de rester sur la touche en raison du conflit qui a éclaté au Mali en 2012. Maria Maïga, une jeune fille de 18 ans.
Parce que les islamistes ne veulent pas que Les filles portent des maillots comme ça, c'est seulement les garçons qui jouent. Je ne veux pas que les filles viennent au terrain pour jouer le basket.
À l'époque où Gao était sous l'occupation des islamistes d'Al-Qaïda, les femmes étaient contraintes de couvrir leur corps en public et les hommes et les femmes avaient interdiction de se mélanger socialement. Sous le régime des extrémistes, les châtiments incluaient la lapidation en public, les amputations et la flagellation. Les femmes qui refusaient de suivre le code vestimentaire étaient arrêtées. Nombreuses sont celles qui affirment avoir aussi été violées. Ramatou Touré pensait qu'elle pourrait se couvrir pour continuer à jouer au basket, mais cela s'est avéré impossible. Elle s'est donc embarquée dans un autobus en direction du sud, fuyant vers Bamako, la capitale, comme des dizaines de milliers d'autres habitants du nord.
Dans la crise que j'ai quitté ici pour aller à Bamako, quand je partais là-bas, je n'ai pas entraîné là-bas. Je le sais. Je ne pars pas même à l'école. Je ne pars pas. Chaque fois, je trop souffre. Je souffre. Je ne mange pas rien tellement je suis... Ça me blesse quoi. Tu vois, dès que je viens ici, je viens commencer à étudier et puis je viens commencer les entraînements aussi.
La situation ayant changé, la plupart des filles sont de retour et ont beaucoup de rattrapage à faire. Une tâche à laquelle s'attelle Oumar Tonko Sissé, un entraîneur d'une soixantaine d'années à la retraite. Il est également le fondateur du Centre pour la formation et la promotion des sports à Gao. Arborant un grand sourire et tenant une cigarette à la main, il se félicite de ce qu'il appelle ses enfants. Mais il se souvient avec amertume de l'occupation des groupes islamistes. Oumar Sissé.
En principe, dire ça pour les groupes armés, on n'a rien à leur dire, on s'en fout de les groupes armés là, on s'en fout de. Il ne faut pas m'amener le problème de la rébellion là, bismillah, je n'aime pas entendre ça.
Les groupes armés, ils étaient fous, dit-il, et il ne veut pas se souvenir de ces moments. Dès la libération de Gao par les troupes françaises en janvier 2013, le centre sportif a repris ses activités. Mais Oumar Sissé affirme que malheureusement, l'équipe féminine a perdu beaucoup de ses meilleures joueuses, d'autant que de nombreuses familles sont toujours déplacées dans le sud par crainte de l'insécurité persistante dans le nord.
C'est des jeunes, donc il faudrait du temps pour pouvoir les initier et pour pouvoir concrétiser les notions sur lesquelles on veut en venir. Pour le moment, on ne peut que les suivre petit à petit, jusqu'à ce qu'ils assimilent toutes les notions. C'est tout.
Par ailleurs, les conditions de vie à Gao restent difficiles. Les emplois sont rares. Certains produits alimentaires sont encore introuvables. Les services publics laissent beaucoup à désirer. Toute la ville se remet lentement de la crise, comme le reste du Nord Mali. Mais l'équipe a la chance de prendre part aux compétitions amicales organisées dans les villes voisines. La chance de jouer malgré les combats sporadiques. Ramatou Touré.
Maintenant, ça va, mais pas comme avant. Parce qu'avant, on va jouer jusqu'à, parfois, depuis 17h jusqu'à 22h, 23h. Mais maintenant, on dirait que la ville n'est pas bien. On va jouer jusqu'à vers 20, entre 20h et 21h. On va quitter ici pour aller à la maison. C'est tout.
Un véhicule de l'armée française passe en face du terrain de basket. Un dur rappel de la présence continue des islamistes. Des rumeurs circulent aussi, selon lesquelles les rebelles touaregs sont en train de recruter. Pour l'entraîneur Sissé, le sport peut jouer un rôle prépondérant dans la ville, en ramenant la paix et en encourageant les jeunes à se fixer sur des objectifs positifs au lieu de se laisser attirer par les offres alléchantes mais dangereuses des groupes armés.
Bon, c'est ce que j'ai dit aux enfants, de mettre du sérieux, hein, de se mettre dans la tête que l'entraîneur ne cherche que leur bonheur. L'entraîneur cherche à ce qu'ils deviennent de bons basketteurs, c'est tout.
Bref, l'équipe féminine de basketball de Gao se veut être une inspiration pour les jeunes de la ville, dans le but de construire un bel avenir ensemble. Oh, la région, non.
Et très rapidement pour terminer, c'est l'Italien Vincenzo Nibali qui a remporté le Tour de France 2014 devant les Français Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot. Et voilà pour Sporama. Merci à nos amis fidèles. Et chaque lundi, au grand rendez-vous sportif donc du lundi, Jules Valentin Bouet, Salif Caboret et Élisée Ongpati. Georges Léonard Sagneux était à la réalisation. Jacques Aristide au micro. Merci de votre attention, de votre fidélité. Très bonne journée, très bonne semaine, très bonne soirée, je dirais plutôt, sur la VOA.